Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Ça fait toujours plaisir hein, de vous retrouver sur la 93.5. Vous savez, le rendez-vous, c'est chaque jour de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. La nouvelle génération, les tarifs de l'électricité subissent une augmentation de prix, bien sûr. Les organisations de défense des consommateurs telles que la LCT, la TC, MMLK et bien d'autres s'insurgent contre cette nouvelle mesure de la société de l'électricité au Togo. Qu'est-ce qui explique cette nouvelle augmentation des prix de l'électricité au Togo? Les Togolais n'ont-ils pas assez subi le coût de l'électricité pour ne plus en subir davantage? Ces questions, nous les répondrons justement dans cette émission Club de la Presse. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité, tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin et dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi 16 mai 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Koku, Vitor Guitomega est à la mise en onde, Jérôme Dakoucha sur la mise en ligne, je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Kouktouazi à Dapaon. Vous le savez très bien, vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Lebel. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, confrères journalistes, puisque l'équipe de vendredi se met déjà en place. Germain Pouli, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal F.
J'espère que vous allez bien.
Grâce à Dieu, ça va.
Quand je vois même le sourire, je pense tout simplement qu'avec ce sourire, ça va bien.
Ben, le sourire, c'est la meilleure recette hein, pour tenir. Je crois que c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Il ne faut pas hésiter de l'exploiter au maximum. Hein, ça permet de se protéger, ça permet de guérir de beaucoup de choses.
Il semble que c'est thérapeutique et vous l'avez si bien dit, ça permet de guérir. Et merci hein, d'avoir répondu à notre invitation. Samy Oro, Sama, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous ceux qui nous suivent un peu partout à Lomé et puis dans les localités environnantes. Merci de m'avoir invité.
Merci d'avoir accepté notre invitation, Samir.
C'est toujours un plaisir.
Le plaisir est partagé. Merci d'être là. Merci également à mon cher ami, chronique politique. Je veux bien parler alors de Firmin Tekou Agbo. Firmin, bonjour.
Bonjour Pascal Ossou, merci de m'avoir invité.
J'espère que vous allez bien.
Ouais, je vais bien avec grâce de Dieu, mais... Et pas trop bien, puisque vous, Pascal Ossou, vous n'allez pas bien. Vous n'allez pas bien, vous êtes en deuil, il faut que les auditeurs le sachent. Vous venez de perdre votre papa, ce qui veut dire que la semaine a été très difficile pour vous. Je sais ce que vous traversez en ce moment. Je voudrais vous présenter au nom de toute l'équipe, même si les autres vont prendre la parole tout à l'heure, vous présenter toutes nos sincères condoléances et vous souhaiter beaucoup de courage dans cette situation extrêmement difficile. Que Dieu vous apaise le cœur. Et aussi, nous sommes en Afrique qui vous donne assez de moyens pour pouvoir gérer cette situation difficile. Vous êtes un homme, donc le fardeau est lourd. Mais je pense qu'avec la grâce de Dieu, vous arriverez à bien le porter jusqu'à à sa dernière demeure. Donc, que votre papa repose en paix.
Merci beaucoup, Firmé Teko Agbo, puisque vous avez fait même d'ailleurs le porte-parole des confrères qui sont en studio ici. Merci pour ces mots de solidarité et aussi de soutien, un soutien moral. On en a besoin. Nous avons reçu beaucoup de messages concernant justement cette situation. Merci à vous tous qui nous portez toujours dans votre cœur à travers vos marques d'affection et de sympathie que vous témoignez à notre égard. Merci. Alors, nous sommes déjà là, puisque c'est l'émission Club de la Presse. Vous savez très bien que même c'est ça aussi notre travail. Mmh. Au-delà même d'ailleurs de notre morale, on doit faire de notre possible pour répondre, n'est-ce pas, Germain Pouli?
Oui, ben, je permets que je rajoute déjà Firmin pour souhaiter mes condoléances. Et bon, voilà, que Dieu apaise. Hein. Ta douleur personnellement et puis celle de toute la famille, parce que le papa, on sait ce que le papa représente dans la famille, c'est le pilier de la famille. Quand il n'est pas là, tout tombe sur la maman et sur les quelques frères et sœurs, si on en a. Et donc vraiment, c'est très difficile. Courage à toi.
Merci beaucoup, Germain Pouli. Nous commençons cette émission avec ce sujet-là que j'évoquais déjà dans mes mots introductifs. Je veux bien parler de cette hausse de tarifs d'électricité dans notre pays. Il y a le journal La Chronique de la Semaine qui titre sur le sujet cette hausse de 12,5% des tarifs d'électricité. Germain, je ne sais pas comment vous avez appris la hausse alors d'électricité, la hausse des tarifs justement d'électricité dans notre pays. On se demande, ou la question que les Togolais se posent aujourd'hui, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui explique une telle augmentation de prix?
Ben, qu'est-ce qui l'explique? Je crois que c'est forcément lié donc aux facteurs de production. Vous savez que nos pays sont très dépendants de l'extérieur par rapport à l'électricité. Et nous en prenons au Ghana, nous en prenons au Nigeria. Et ces pays aussi ont les mêmes difficultés que nous. Ces pays ont des besoins en électricité assez énormes, mais font l'effort tout de même donc de fournir le quota qu'ils ont promis donc à des pays comme le Bénin et le Togo avant à travers la CEB qui a été finalement dissoute. Donc il faut que nos pays travaillent pour avoir une indépendance énergétique. Et donc, en attendant que cette situation n'arrive, il faut faire avec les aléas. Et donc, c'est avec beaucoup de peine que les Togolais apprennent cette augmentation-là au moment où ils ne s'y attendaient pas. Mais pour certains spécialistes, ils voyaient ça venir déjà depuis le début du mois de mai. Dans des pays comme le Ghana, on a vu l'eau et l'électricité augmenter de pratiquement 15% pour l'électricité et 4% pour l'eau. Et donc certains déjà se demandaient si ça ne va pas arriver donc à nos pays. Donc ça n'a pas fait 2 semaines voilà, que le Togo à son tour augmente donc le prix du kilowatt. C'est très difficile pour la population et je pense aussi que ça doit être difficile pour les dirigeants de devoir augmenter aujourd'hui l'électricité, ce qui va encore alourdir les peines des Togolais qui luttent déjà contre la vie chère. Et donc, après le carburant, l'un des éléments aussi qui joue, c'est l'électricité, c'est un facteur de production. Et donc, quand ces deux sources d'énergie-là, le carburant et l'électricité, quand ça augmente, ça fait mal. Donc, pour revenir à votre question, tout simplement, je pense que c'est dû au facteur de production de l'électricité donc qui augmente. Ceux qui nous fournissent aussi ont des difficultés, augmentent aussi. Certains pays louent pratiquement des bateaux qui viennent accoster au large de leurs côte et puis distribuer de l'énergie dans le pays. On en a vu dans plusieurs pays. Donc, où il y a ce type de bateaux qui viennent renforcer donc l'approvisionnement en énergie électrique. Vivement que nos pays travaillent sur les énergies renouvelables. On parle beaucoup de soleil. Le Togo essaie de faire des efforts dans l'installation des panneaux photovoltaïques, mais je pense que c'est encore largement insuffisant. Même s'il y a un plan national d'électrification qui est rassurant et qui veut bien nous donner d'ici 4 ans de l'électricité pour tous les Togolais. Il faut dire que cette électricité-là soit disponible. Il faut également aussi que le prix soit abordable. C'est vrai qu'il y a très longtemps qu'il n'y a pas d'augmentation au Togo. Mais comme je le disais en début de mois déjà, il y en a eu au Ghana et beaucoup pensaient que ça n'allait pas traîner et que ça ne va pas tarder, que des pays comme le Togo et le Bénin, qui dépendent énormément de pays comme le Ghana et le Nigeria, qui sont très en difficulté, devraient pouvoir donc supporter une part donc de cette pression. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Ça va être un peu compliqué, mais je crois que beaucoup plus pour les industriels aujourd'hui, l'énergie, certains par rapport à leurs activités se disent, mais il vaut mieux qu'il y ait une énergie disponible. Un peu cher, qui n'est pas toujours d'énergie. Mais maintenant que le prix augmente, je crois que il faut que l'État fasse l'effort qu'il n'y ait pas de délestage, fasse l'effort pour que cette énergie soit disponible. À partir du moment où elle coûte un peu plus cher, à partir du moment où certains, pour des besoins de leurs activités, ont besoin de cette énergie-là, ils sont même prêts peut-être à payer un peu plus cher. Et quand il y a augmentation, il faut tout faire pour que cette énergie-là soit disponible, parce que c'est très embêtant, le délestage. Pour nous, en particulier à la maison, c'est embêtant. J'imagine ceux qui travaillent avec de l'énergie, ceux qui font tourner leur entreprise avec de l'énergie. Voilà, ici à Canal FM, si on coupe aujourd'hui le courant, c'est vrai que vous avez un générateur assez costaud en bas, mais je ne pense pas qu'il permette d'alimenter toutes les climats, toutes les structures qu'il y a ici. Donc ça reste vraiment une grande difficulté, surtout pour les entreprises qui utilisent l'énergie électrique pour leurs activités.
Mais ça veut dire que ça a été une surprise générale pour les Togolais de constater cette annonce, même d'ailleurs de l'augmentation des prix de l'électricité. Mais finalement, comme je posais même la question à Germain tout de suite, est-ce que vous pouvez expliquer même d'ailleurs cette augmentation de prix?
Ben écoutez Pascal, aujourd'hui l'énergie électrique est une denrée indispensable au quotidien. Vous savez que pour se nourrir, pour se vêtir, pour se laver, pour faire un certain nombre d'activités, nous avons besoin de l'électricité. D'ailleurs, vous avez vu les différentes réactions sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de discussion, sur les médias également. Vous avez vu les réactions des populations. En fait, sans l'électricité, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Même pour avoir de l'eau à la maison, nous avons besoin de tourner la machine qui fait monter de l'eau. Nous avons besoin de l'électricité pour que la TDE puisse fournir de l'eau. D'ailleurs, même lorsqu'on coupe l'électricité dans la plupart du temps, lorsqu'on coupe l'électricité dans nos ménages, on a du mal à avoir de l'eau. Donc, ça veut dire que l'électricité est indispensable pour qu'on puisse mener à bien nos journées. Et donc, je pense que c'est de bonne guerre, c'est de bon ton que les gens réagissent véritablement et qu'ils puissent exprimer un certain nombre de désarroi, un certain nombre de mécontentement par rapport à cette nouvelle hausse qui est de 12,5%. Mais quand on regarde de si près l'arrêté interministériel qui a été entériné, qui entérine donc cette hausse donc du prix de l'électricité proposée donc par la CET, on se rend compte que l'arrêté a été pris en mars 2025 et que les nouveaux prix sont applicables à partir de mai 2025.
Tout à fait.
Ça veut dire que après mars, il y a eu avril. Après avril, maintenant, on est en mai. Ça veut dire que l'exécutif a pris un temps d'observation, un temps de, je dirais, un temps de discussion, même si l'idéal aurait voulu qu'on puisse, dès le départ, associer un certain nombre d'acteurs, notamment les associations de consommateurs, par rapport à cette réforme, parce que quand on regarde un peu l'arrêté ministériel, on nous apprend que cela s'inscrit dans le cadre d'une réforme tarifaire d'envergure menée par la compagnie énergie électrique du Togo et dont l'objectif est d'assainir les finances du secteur énergétique et garantir un meilleur équilibre entre rentabilité et accessibilité sociale. C'est-à-dire qu'il y a des raisons qui sous-tendent cette augmentation. Ce n'est pas de...
Mais est-ce que vous trouvez vraiment ces raisons plausibles, c'est-à-dire des raisons quand même qui sont soutenables?
Mais Pascal, quand vous regardez dans l'espace Yomoua, le coût de l'électricité est élevé. Ça, c'est un fait. Quand vous parcourez la plupart des pays, le pays dans lequel l'électricité coûte le moins cher, c'est au Niger. Selon les dernières statistiques, c'est au Niger que le prix donc de l'électricité coûte moins cher. Pourquoi le coût de l'électricité est moins cher? Parce qu'en fait, nous dépendons des importations de combustibles fossiles pour faire tourner les centrales, que ce soit centrale Kekeli, centrale Contour Global et bien d'autres. On a besoin du pétrole. Le Togo n'est pas un pays producteur. Même le Nigeria qui produit le pétrole, mais c'est une vague de délestage énorme là-bas. Ça grogne. Parce qu'en fait, nous avons un certain nombre de problèmes dans l'espace Yomoua. Le coût élevé donc de l'électricité. Nous avons les infrastructures qui sont de plus en plus vieillissantes. Et puis nous avons des coupures intempestives. Parce qu'en fait, nous dépendons donc de ces combustibles fossiles pour produire l'électricité, ce qui rend en fait vulnérable, ce qui nous rend en fait vulnérable aux fluctuations des prix sur les marchés internationaux. Au cours de l'année précédente et en début de cette année, nous payons connu une augmentation régulière donc du prix du pétrole, le prix de l'essence. Donc en fait, si on augmente le prix du combustible qui vous permet de tourner vos centrales pour produire de l'électricité, c'est de facto, en fait, qui aura augmentation sur le prix, donc du le prix de l'électricité. Même si on sait que dans nos pays, les États font un effort d'accorder des subventions sur l'électricité, mais en fait, cela crée ce qu'on appelle en économie des déficits budgétaires pour le gouvernement. Donc, en fait, nous sommes dans une situation où nous avons une certaine dépendance. Parce que nous n'arrivons pas sur une certaine souveraineté en énergie électrique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le Togo, je pense en fin d'année 2024, le ministère chargé des mines et de l'énergie a publié un certain nombre de statistiques qui détaillent les besoins du pays en journée, en soirée, en des heures creuses et en des heures pointes. Et ce que nous produisons sur le plan local et le déficit que nous devons combler en allant chercher ce déficit de l'électricité, soit au Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Et donc, quand vous êtes dans une situation comme ça, l'idéal, c'est que vous ouvrez votre secteur énergétique, vous ouvrez le secteur électrique. Parce qu'en fait, les investissements publics ont montré leur insuffisance, ont montré leurs limites. D'accord, c'est pour merci. Ça que depuis un bon moment, le Togo a fait le choix d'aller vers l'énergie solaire. Et vous avez vu, le gouvernement multiplie l'installation des centrales solaires sur toute l'étendue du territoire. Cela permet à ce qu'on puisse rendre autonome un certain nombre de localités de notre pays. Et donc, je pense que cela peut être expliqué et que la société nous dise qu'en fait c'est un plan annuel qui permettra d'ajuster les prix selon les coûts de production, les coûts d'exploitation, le coût de maintien donc du réseau électrique. Et nous, notre souhait, c'est de faire en sorte que, puisque le gouvernement a annoncé que les mesures sociales adoptées en début d'année pour soulager les ménages modestes reste intact, donc ça veut dire que le kilowatt est à peu près à 60 ou à 70 francs selon le mode donc de paiement post-paiement ou pré-paiement. Donc, c'est pour dire qu'en fait, quand vous prenez aujourd'hui sur le plan local, à partir de mai 2025, donc à partir de ce mois, vous avez 91 francs CFA par kilowatt pour la tranche tarifaire unique. Vous avez 77 francs CFA par kilowatt en heure creuse, c'est-à-dire moyenne tension. Vous avez 85 francs CFA par kilowatt en heure pleine, moyenne tension. Et vous avez 119 francs CFA par kilowatt en heure de pointe avec un certain nombre de modulations pour la zone franche, pour la plateforme d'Atiticopé, afin d'inciter l'industrialisation.
Merci Samir, oui, Firmin. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal quand on prend le fait qu'aujourd'hui il y a des perturbations en matière d'énergie, et nous avons connu même d'ailleurs des coupures intempestives alors d'électricité dans notre pays, bien sûr, c'est en quelque sorte des moments qui ne sont pas très loin quand même de nous. Hein. Et au-delà de cela, et nous avons même aussi cette insuffisance même de l'énergie électrique, mais c'est le prix qu'on augmente maintenant. Et il y a le journal du Togo qui titre sur le sujet, le journal titre, la 5e République débute sous le signe de la hausse des tarifs de l'électricité. Et finalement, est-ce que le journal n'a pas raison?
Ce qui est 5e République ou 4e République, on aura toujours cette situation que nous sommes en train de vivre. Vous savez, ce qui se passe, nos dirigeants n'arrivent pas à nous dire la vérité. Je ne parle pas des dirigeants togolais seulement, je parle des dirigeants du monde. Ce qui se passe actuellement, le problème est simple, il est démographique. Vous savez, quand Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, la population togolaise était peut-être à plus de 5 millions. Aujourd'hui, la population togolaise est à combien? À plus de 8 millions. Ça veut dire les besoins en énergie en 2005 et les besoins en énergie aujourd'hui, il y a une nette différence. Mais c'est la même chose au fait dans le monde. Que les gens le sachent, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on se trompe, il ne faut pas qu'on soit naïf. Les temps qui arrivent vont être encore plus difficiles pour le monde entier. C'est-à-dire, à l'avenir, il y aura encore plus de riches et à l'avenir, il y aura encore plus de pauvres. Vous savez par exemple ce qui est en train de se passer en France, mais c'est l'autre fois quand moi j'écoutais Macron que j'ai appris qu'en réalité, en France, dans certaines communes, il y a des enfants qui vont à l'école ventre creux. Vous savez, ça m'a appris ça. C'est-à-dire, ce que nous vivons ici, actuellement en France, ça se passe dans plusieurs communes. C'est pas que je suis en train de juger, mais je justifie un peu, je dis un peu de façon globale ce qui se passe dans le monde. Regardez, en France, actuellement, il y a des enfants, ce qui se passe au Togo, où des enfants peuvent aller à l'école ventre creux parce qu'ils n'ont rien à manger à la maison. Ça se passe aussi en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant la population augmente, autant les besoins en tout augmentent. Mais le problème, la faiblesse au niveau des gouvernants, c'est qu'on n'arrive pas à adopter des politiques qui puissent véritablement s'adapter à notre démographie. C'est ça le problème. Et en Afrique, c'est encore un peu plus difficile. Parce que, tout d'abord, on manque de ressources, on n'a pas de ressources financières pour élaborer de grands projets qui puissent nous permettre d'avoir assez de ressources financières pour pouvoir financer notre énergie. Vous avez vu, Samir a parlé de multiplication des panneaux solaires. Oui, le gouvernement le fait. Mais en réalité, il faut encore plus de moyens. Si le Togo avait plus de moyens, si le Togo avait encore plus de milliards pour multiplier les centrales solaires, vous croyez qu'on serait encore dans cette situation? Non, c'est pas une question. Le gros problème que nous avons en Afrique, c'est une question démographique. On arrive à combler les besoins. Vous imaginez aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les nouveaux quartiers. Il y a des nouveaux quartiers qui se multiplient. Ça veut dire quand il y a de nouveaux quartiers, ça veut dire qu'il y a autant de besoins en électricité. Vous savez, aujourd'hui, en 2005, nous, on n'avait pas d'enfants. Aujourd'hui, il y a des gens qui avaient 20 ans en 2005, 15 ans en 2005, et aujourd'hui, plus 20 ans, ils ont 35 ans, et ils ont famille. Donc, ça veut dire c'est encore plus de besoins en termes d'énergie. Mais est-ce qu'on a des milliards pour pouvoir combler ces besoins?
Mais est-ce que tout cela, ce n'est pas une vision?
Oui, mais c'est ça, en fait. Vision. Oui, c'est là où je veux en venir. Vous imaginez, nos dirigeants africains, ils ont un problème. Ils n'arrivent pas à s'accorder sur ça. Ils n'arrivent pas à se mettre ensemble pour dire où est-ce que nous allons en termes d'énergie. Il a fallu qu'un Français le fasse un jour, peut-être avant 10 ans, quand on appelle Jean Borloo, c'est lui qui dit je vais descendre en Afrique et j'ai besoin de plus de 600 milliards d'euros pour couvrir toute l'Afrique en termes d'électricité. Et il avait commencé à l'époque en visitant les chefs d'État et on avait commencé à lui donner un peu d'argent. Mais le drame, c'est que Sarkozy n'a pas été élu et il n'a pas poursuivi sa politique. Et maintenant, tout ce temps, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Si on veut le faire de façon isolée, ça ne va pas marcher. Parce que le Togo, ça ne peut pas. Ce que nous sommes en train de vivre, ça va être pire à l'avenir. Demandez aux Maliens ce qu'ils sont de vivre avec 4 heures d'électricité par jour au Mali. Mais j'ai des amis qui sont en train de souffrir au Mali.
Et l'électricité coûte cher.
Et l'électricité coûte cher au Mali.
119 francs CFA le kilo.
Ce qui se passe, ce n'est pas une question du gouvernement, mais ce qui se passe, c'est une question de démographie. Que le chef d'État arrive à nous dire la vérité en disant qu'en réalité, mais c'est-à-dire la démographie, elle évolue beaucoup plus que les besoins, elle veut beaucoup plus que les ressources que nous avons. Alors qu'il faut que, aujourd'hui, Fonia Singbe, le président du conseil, il faut qu'il réfléchisse autrement par rapport à la politique énergétique du Togo. Parce qu'il faut aller chercher de l'argent. Sinon, l'avenir, ça va être encore beaucoup plus difficile. Moi, je ne suis pas rentré dans les calculs parce que je ne maîtrise pas l'histoire de kilowattheure, tout ça. Moi, je ne suis pas trop bon en ça. Mais ce que je sais, c'est que les Togolais ont besoin d'électricité. Il faut que le gouvernement mette en place une politique qui puisse permettre à tout le monde d'avoir l'électricité chez lui.
D'accord. Oui, mais quand j'écoutais et Fermé, est-ce que finalement, on n'a pas d'ambition? C'est-à-dire, quand on prend les chefs d'État, parce que pratiquement, le problème est dans les pays africains. Et est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'ambition pour vous en matière même d'ailleurs d'énergie électrique?
Non, c'est compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas d'ambition? Il y a des ambitions. Actuellement, il y a le Togo, le Tchad, le Niger, le Burkina, puis le Mali, qui travaille sur un grand projet d'électrification. C'est ça même qui avait fait dire à certains, à l'époque, il y a 2 ans, que le Togo adhérait à l'AES. Mais c'était le Tchad, le Togo, plus les 3 pays de l'AES. Et puis, il y a un plan national d'électrification au Togo qui avance. Ce qui est sûr, dans 4-5 ans maximum, il y aura l'électricité partout au Togo. Ça, c'est clair.
Ah, c'est vous qui le dites?
Non, tel qu'on avance aujourd'hui, la couverture est autour de 60, hein, on va vers 70. Quand vous voyagez, vous allez voir des villages qui sont éclairés aujourd'hui et qui ne l'étaient pas il y a quelques années. Maintenant, c'est ce que je disais avant, il faut qu'il y ait l'énergie. Après, même si c'est cher, il faut qu'on apprenne aussi à utiliser l'énergie, à économiser. Il y a des charges parfois inutiles. Hein. Des gens sortent, ils laissent les ventilos allumés, ils laissent des... Ils vont, mais actuellement, il n'y a pas d'électricité. Vous voyez un grand pays comme les États-Unis qui achète une bonne partie de son électricité au Canada. Mais ce n'est pas une question de pays africains, de pays pauvres. Les États-Unis, on peut dire que c'est le plus grand pays du monde. Mais il n'a pas une autosuffisance énergétique. Il prend beaucoup d'énergie du Canada. Donc, c'est pour dire que c'est des problèmes qu'il y a partout. Chaque pays essaie de s'organiser. Des pays comme la Chine, aujourd'hui, font un mix énergétique. Hein. Ils utilisent le charbon, ils utilisent...
Le solaire.
Donc, l'éolien aussi, et tout ça. Donc, nos pays aussi doivent aller vers là, surtout que l'Afrique est un continent assez ensoleillé, où on a le soleil pratiquement toute l'année. Et le Togo a adhéré à ce qu'on appelle l'Alliance solaire internationale, qui est un programme initié par l'Inde. Et je crois que c'est un peu même par ce biais-là qu'aujourd'hui le Togo est l'un des pays. Il y en a d'ailleurs la plus grande centrale solaire en Afrique de l'Ouest. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même des projets ambitieux. Ça prendra le temps, parce que c'est ça. Et même là, je le disais tantôt, qui nous en donne, les gars et le Nigeria, on n'imaginait pas le problème d'électricité qu'ils ont là-bas, sauf que c'est des pays qui ont une culture de respect de la parole donnée, même quand même n'en ont pas. Ils en vendent quand même un peu parce qu'ils ont alimenté le Bénin, par exemple. Les Nigériens ne respectent pas toujours, mais le Ghana fait cet effort de respecter, donc c'est un problème. Et chaque pays a son plan. Et il y a eu un temps, l'Afrique a tenté de se réunir à un sommet à Marrakech où le constat était clair, c'est que 80% à l'époque, il y a une dizaine d'années, 80% de l'Afrique était dans le noir. Ça dit qu'il n'y a pas d'électricité, mais aujourd'hui, je pense qu'on est peut-être dans les 70%. Et donc, au Togo, je pense qu'on a peut-être du 35%. Ou même 30% du Togo qui est dans le noir. Et donc, ça vient avec un projet d'installation des centrales photovoltaïques, d'accord, surtout dans les zones rurales. Mais après, c'est que ça va devenir cher. Et la vie, je rejoins un peu ce que disait Firmin tout à l'heure, mais un peu plus globalement, la vie deviendra de plus en plus chère dans tous les domaines. Le pain que nous achetons moins cher va devenir cher. Le tomate va devenir cher.
Mais c'est déjà cher.
Oui, mais ça va devenir encore plus cher. Ça dit que ça ne va jamais descendre. Ça, c'est clair. À part quelques produits électroménagers qui ne viennent de Chine ou de l'Inde, qui dont on voit un peu les prix baisser. Mais pour tous les produits, vous allez voir que les choses... Mais après, c'est que le souci, c'est que nous devons être un continent capable de produire. On parle de notre propre énergie, mais après, dans tous les domaines, pour manger un produit, ne serait-ce que ça, on doit être capable
mais
de...
Oui, justement, vous parlez de production, est-ce qu'il ne faille pas aussi aller vers une adaptabilité de cette cherté de la vie?
C'est pas une adaptabilité. Moi, je trouve que pour manger aujourd'hui, même le maïs, il est cher. Pourquoi? parce qu'il n'y a pas beaucoup de Togolais qui sont dans les champs. Le peu qu'ils produisent aujourd'hui, les femmes même produisent beaucoup, et ça revient, l'État accompagne tout ça. Mais le riz que nous mangeons, il vient carrément de l'Asie. Aujourd'hui, des efforts sont faits avec les agropoles et tout ça, avec les AP et tout ça, mais il manque, les Africains ne sont pas assez engagés. Je parle pas des gouvernants, parce qu'il y a beaucoup de projets qui accompagnent, mais je parle de nous-mêmes en tant que citoyens. On n'est pas dans des secteurs dont l'Afrique a besoin, là où on doit produire et même exporter. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous prenez un domaine comme l'anacarde, un domaine comme les ananas, par exemple, le Togo exporte beaucoup. Il exporte beaucoup, c'est pas mal. Mais après, il y a d'autres domaines où on doit déjà satisfaire la demande locale. Et si on produit beaucoup, c'est que les prix peuvent baisser un peu. Mais quand on n'en produit pas beaucoup, c'est que la denrée devient un peu rare et forcément beaucoup plus chère. Et dans tous les domaines, sur tous les produits pratiquement. Donc quand vous voyez nos parents qui vous parlent aujourd'hui, boire une bière Ladia, une bière Pils, ils vous disent, mais je l'achetais à 60 francs à l'époque ou à 50 francs. Aujourd'hui, vous êtes à 600 francs. Pratiquement la même bouteille sortie de la même brasserie. Donc, vous voyez, donc, ça va aller dans tous les domaines. La vie sera de plus en plus chère et l'homme sera obligé peut-être de travailler beaucoup plus.
D'accord.
Pour gagner plus et pouvoir satisfaire ses besoins. Maintenant, c'est vrai que pour revenir à l'électricité, le gouvernement a un plan ambitieux et des efforts sont faits. Mais il faut qu'il y ait de l'accélération, il faut des financements massifs aussi, parce que pour installer une centrale, c'est pas une question de 100 milliards, c'est beaucoup plus que ça.
D'accord.
Et donc, il faut aller chercher cet argent-là, parce que, quoi qu'on dise, même quand on se plaint, des gens sont aussi prêts à payer pour avoir l'électricité.
D'accord.
Parce qu'ils en ont vraiment besoin.
Oui, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Nous en avons tous besoin. Nous allons quitter le sujet. On va s'intéresser maintenant à cette conférence, la conférence de Lomé, qui a eu lieu dans cette semaine. Je veux bien parler de cette conférence de l'Union africaine sur la dette publique. C'était du 12 au 14 mai dernier. C'est vrai, vous avez suivi, Samir, vous avez suivi de bout en bout, bien sûr, cette conférence. Il y a des journaux qui sont revenus sur cette conférence. Il y a le journal L'Union qui titre sur le sujet, sur la dette des pays africains. La conférence de Lomé demande à Fonia Simbe de porter la question de la dette africaine auprès des partenaires institutionnels et internationaux. Un front uni face aux créanciers lors des négociations sur la dette recommandée. Autre journal, c'est Togo Matin qui titre « Conférence de Lomé sur la dette, enjeux et perspectives de cette rencontre stratégique sur la soutenabilité ». Également, un autre journal qui revient bien sûr sur le sujet et qui parle alors de cette conférence, c'est Chronique de la semaine qui titre « Première conférence de l'Union africaine sur la dette, on ne peut pas exiger la paix sans autoriser de la financer ». Et c'est des propos alors de Forgne, c'est le président du conseil. Et le journal Le Populiste revient sur le sujet et écrit « Dette publique ». Assange s'insurge, la DMP condamne la conférence de Lomé. Voilà en quelque sorte la revue de sur le sujet. Et Samir, je le disais, vous avez suivi aussi de bout en bout cette conférence sur la dette publique en Afrique, bien sûr. Alors, est-ce que vraiment on en avait besoin?
Mais écoutez, Pascal, lorsque vous prenez un peu la réalité de nos pays africains, les pays comme le nôtre, le Togo, dont le budget annuel n'est pas 2000 milliards pour financer les infrastructures de grande envergure, les infrastructures de développement, les routes, les infrastructures de fourniture en énergie électrique et un certain nombre de projets ambitieux, nous avons besoin de ressources. Nous avons besoin de l'argent. Mais puisque vous avez des limites dans la mobilisation des recettes au plan national. Parce qu'en fait, il n'y a pas de l'argent quelque part où l'État va pour puiser. Et puis quand on parle de budget, les gens pensent que bon, le Togo a de l'argent quelque part et qui permet à ce qu'on puisse faire face à un certain nombre de dépenses, à un certain nombre de projets en termes d'amélioration de conditions de vie des populations. Ben non, c'est au fur et à mesure de la mobilisation des recettes que l'État arrive à faire face à ses dépenses. C'est pour ça, dans le domaine des finances publiques, il y a un principe cardinal. C'est-à-dire que vous faites le travail et après l'État vous paye. On ne vous paye pas avant de faire le travail. Vous faites le travail et après on vous paye. C'est comme les fonctionnaires et les agents de l'État, ils travaillent, c'est à la fin du mois qu'on leur paye. Ce n'est pas en début du mois qu'on leur paye. Donc c'est après service rendu qu'on vous paye. C'est parce qu'il n'y a pas de l'argent disponible tout de suite. Donc en fait, nos pays ont élaboré des plans de développement. Au Togo, nous avons eu le PND, nous avons eu la feuille de route gouvernementale, nous avons eu... C'est comme ça dans tous les pays africains. Nous avons énormément de plans dans de nombreux secteurs pour insuffler un développement durable et puis inclusif et permettre à ce que la population puisse en bénéficier. Et quand vous avez des projets comme ça, où ça nécessite à ce que vous puissiez mobiliser un certain nombre de fonds, vous êtes obligé de vous tourner vers les bailleurs, comme la Banque mondiale, comme le FMI, comme un certain nombre de structures de financement, comme la BAD, comme la BOAD, un certain nombre de banques qui financent le développement. Il y a une banque chinoise également, qui est le Exim Bank, si j'ai bonne mémoire, qui finance également le développement. Donc la dette en soi, ce n'est pas un problème, puisque même les grandes puissances comme la France s'endettent pour se développer. Les grandes puissances comme les États-Unis également ont reçu la dette. Mais comment vous gérez la dette? Comment vous remboursez vos échéances? Comment vous remboursez ceux qui vous prêtent de l'argent? C'est en fait ça le problème. Et donc, quand vous avez des réalités un peu similaires, mais avec quelques particularités, vous avez besoin de ces rencontres-là pour partager des expériences. Ce n'est pas que certains viendront payer la dette du Togo à la place du Togo, ou vice-versa, que le Togo payera la dette de certains pays à leur place. Ce n'est pas que l'Union africaine prend le devant pour payer la dette des pays africains. Non. Mais puisque vous faites partie d'une organisation continentale, plus vous allez comme une organisation continentale, vous pouvez porter votre voix plus haute. C'est-à-dire, quand vous discutez avec une organisation continentale comme l'Union africaine, ben, vous avez plus de représentativité et il y a un impact dans les discussions qui vont être menées. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait des rencontres comme ça, que au niveau donc des finances, au niveau de l'économie de chaque pays, du ministère de l'économie de chaque pays, qu'on puisse partager les expériences. Comment vous faites pour assurer une certaine soutenabilité en termes de gestion de dette de votre pays? Parce que quand vous prenez la plupart des pays comme le Togo, vous avez un service au niveau du ministère des Finances qui est spécifiquement dédié à la gestion de la dette. Vous avez une direction de la dette qui suit la dette du Togo, les échéances que nous devons respecter en termes de remboursement des dettes que nous avons eues avec les bailleurs de fonds et les prêteurs, et faire en sorte que nous puissions être dans le temps. Au-delà des aspects politiques, au-delà des aspects de citoyenneté, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. En fait, c'est une question de spécialiste. C'est vrai que c'est une question politique, mais c'est beaucoup plus une question de spécialiste. Parce que quand vous allez pour prêter de l'argent, après vous devez faire en sorte que vous puissiez être un bon payeur. Parce que si vous ne payez pas bien votre dette, demain quand vous allez retourner, on ne va pas vous prêter. Mais un autre aspect de la dette, c'est que quand vous empruntez de l'argent, il faut le dépenser utilement. Il ne faudrait pas que la dette que vous avez, la dette que vous avez, vous êtes engagé au niveau donc de ces bailleurs-là pour avoir de l'argent. Il ne faudrait pas que l'argent là soit détourné. Il ne faudrait pas que l'argent là serve à enrichir un certain nombre de personnes. Si vous dites aux bailleurs que c'est cet argent que nous avons prêté, c'est pour investir dans le domaine énergétique, c'est pour investir dans le domaine du routier, c'est pour investir dans le domaine de la santé, il faut qu'on ressente cela. Et c'est de bonne guerre lorsque vous voyez un certain nombre de leaders politiques et d'acteurs de la société civile réagir. Parce qu'en fait, on a remarqué qu'en Afrique, dans la plupart des pays africains, on se rend compte qu'en fait, on s'endette pour développer nos pays, pour soulager les souffres des populations. Mais on se rend compte on ne voit pas d'amélioration dans les différents secteurs. Et cela frustre beaucoup plus les citoyens, parce que, à la fin, C'est eux qui doivent payer. Parce que quand vous avez de la dette qui se multiplie, je pense qu'au Togo, nous avons autour de 4 000 milliards de dettes que nous devons rembourser. Donc, ça fait pratiquement autour de 70 à 80% de notre PIB. Quand vous avez une dette comme ça, ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous êtes obligé de renforcer votre taxation, donc de créer de nouveau. Donc c'est le contribuable à la fin qui doit supporter cela, et cela ne permet pas véritablement d'améliorer les conditions de vie si la dette n'est pas bien gérée. Donc moi je pense que ce genre de rencontre permet un partage d'expérience, permet de mûrir un certain nombre de réflexions, et permet ensuite qu'on puisse définir une feuille de route commune au niveau de l'Union africaine et qu'on puisse parler d'une même voix auprès donc des bailleurs pour qu'en fait, qu'il y ait une bonne gestion de la dette et que le remboursement soit dans le respect des engagements pris par le pays.
D'accord, merci Samir. Oui, oui, Firmin, c'est vrai qu'il est souvent dit qu'on ne développe pas, on se développe. Et quand on prend un temps, quand moi j'étais Samir, tout de suite, on comprend que oui, il y a la dette. Il y a des pays même d'ailleurs qui sont des grandes puissances et qui sont les mieux endettés. Mais au-delà de tout, ils savent mieux utiliser aussi leur dette pour ou l'argent emprunté alors pour faire le développement. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement sur nous, notre continent, de telle enseigne qu'il y a de paradoxes entre ce que nous empruntons, ce que nous prêtons, et aussi le développement?
Non, moi, je pense que la situation de la dette, elle est beaucoup plus diplomatique. Vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas se développer sans dette. Ce n'est pas possible. Les États-Unis, c'est 32 000 milliards de dollars. Vous imaginez 32 000 milliards de dollars. La France, c'est plus de 1 000 milliards de dollars. Vous imaginez, oh, regardez, je vais faire un très banal, les États-Unis, plus de 300 millions d'habitants, mais 32 000 milliards de dollars. L'Afrique, plus d'un milliard d'habitants, 1 000 milliards de dollars. On voit un peu la différence. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 1 000 milliards de dollars? On ne peut rien faire pratiquement. Première chose, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, les Occidentaux, ils le savent très bien, ils ne veulent pas que l'Afrique se développe, c'est tout. Premier exemple, quand on va sur le marché, la France peut aller sur le marché et prendre un gros lot, par exemple. Et quand la France vient, bon, elle peut faire un certain nombre de choses. Mais le Togo, si c'est le Togo qui va aller, on va juste lui donner un peu. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un peu? Maintenant, la deuxième chose que je voudrais faire observer, vous imaginez, regardez, quand la France va, par exemple, pour prendre un peu, elle vient, elle investit et elle fait tourner l'argent, elle fait tourner l'économie. Vous dites, elle fait tourner son économie. La France n'a pas de ressources naturelles, de sous-sol, mais elle fait tourner son économie. Elle peut facilement avoir de la liquidité régulièrement pour pouvoir régler la dette. Mais ici, au Togo, par exemple, pas du Togo, ou en Afrique, lorsqu'on va et on nous prête de l'argent, des fois, c'est comme en Afrique, au Togo, on dit, les Togolais aiment beaucoup investir dans la pierre. C'est comme ça pratiquement en Afrique. C'est-à-dire, on va prendre de l'argent, mais on injecte dans des secteurs qui ne nous permettent pas de faire tourner l'économie. Parce qu'on n'a pas assez de moyens. Il faut l'argent pour faire tourner des économies. Regardez par exemple, si on allait sur le marché et on prend beaucoup de milliards et on investissait dans le phosphate. Vous savez ce que ça peut produire? Vous savez ce que ça peut donner? Regardez par exemple, si en Côte d'Ivoire, on va sur le marché, on peut prendre des milliards pour venir injecter dans le cacao. Vous croyez que les Ivoiriens seraient en train de consommer un chocolat français? Non. Mais parce qu'on ne peut pas nous le permettre. On prend de l'argent, mais investir entre guillemets dans la pierre. C'est une manière de parler. C'est symbolique. On investit dans la pierre. Ça ne permet pas de faire tourner l'économie. Donc c'est pour cela que c'est difficile de pouvoir régler. Parce qu'on va prendre. Mais non, il faut faire fructifier. Mais c'est là où on n'a pas à faire fructifier. On n'a pas investi dans de gros projets. Ils appellent ça projet IMO. Projet à haute intensité de main d'œuvre. Non, maintenant on va trouver l'argent où pour pouvoir aller rembourser. C'est là où la première difficulté se pose. Au même moment, on veut encore construire des routes. Maintenant on n'a pas d'argent, on n'a pas pu régler la première dette. Il faut encore aller chercher dette. Maintenant on va encore aller chercher. On va encore immobiliser ça. Je ne parle pas du Togo, je parle de l'Afrique en général. On va encore immobiliser ça. C'est comme ça. Ça s'accumule. Et on n'arrive pas à s'en sortir. C'est faire un dessin. Les Occidentaux le font à dessein pour pouvoir nous maintenir dans cette situation de précarité.
Mais au-delà de tout, nous-mêmes, nous n'avons pas notre responsabilité.
Oui, nous avons notre responsabilité, mais c'est comme nous ne pouvons pas nous en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Les gens disent que la Chine va nous donner de l'argent, tout ça. Oui, on nous donne. Regardez, il y a encore un exemple qui est extraordinaire. On dit par exemple, la France doit nous donner peut-être 2 milliards. 2 milliards de francs CFA pour injecter dans un secteur peut-être santé. On veut construire quelque chose dans le domaine de la santé. La France dit, ok, c'est moi qui envoie des experts. Oh, c'est dans ces 2 milliards que vous devez payer les experts. La France dit que c'est moi qui dois vous fournir les matériels. C'est dans ces 2 milliards que vous devez payer les matériels. Vous devez payer les matériels. Donc, une partie de ces 2 milliards retourne en France. Vous allez vous développer comment? On ne peut pas se développer. Ce que Fouyassi est en train de faire, moi, excusez-moi, mais j'apprécie un peu ça de sa manière. Il a la méthode. Il dit, avec assez de méthode, le problème rien qu'il y a. En réalité, ce qu'il dit, c'est qu'on n'arrive pas, on ne peut pas gérer les dettes. Vous nous mettez là, personne, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. On va trouver l'argent pour payer les dettes. C'est comme ça, ça va toujours se passer. Alors, pour conclure, ce que je voudrais demander au chef d'État, au président du conseil, Fonyasingbe, et à ses amis, puisqu'on fait de lui pour porte-parole, il faut qu'il arrive au niveau de l'Union africaine, il faut qu'il arrive à dire à ses amis, les gars, nous avons des ressources. Mais il faut que nous arrivions à transformer nos ressources sur place. Parce que si on n'arrive pas à les transformer, on ne peut pas créer de l'emploi, on ne peut pas créer de la richesse. Un exemple, vous voyez le Congo-Brazzaville. Sa première richesse, c'est le pétrole, vrai ou faux. Maintenant, vous ne pouvez pas trouver une seule entreprise congolaise capable de pouvoir construire un puits pétrolier. Et alors, il faut aller chercher un investisseur qui vient, lorsqu'il va venir construire le puits et exploiter, l'investisseur va rapatrier 80% des recettes. Les Congolais n'auront droit qu'à 20%. On peut faire quoi avec 20%? C'est tout le problème en Afrique. Mais en tout cas, quand on reproche un certain nombre de choses, on nous dit, on parle de la corruption, on dit, on détourne tout cela. Mais c'est minime par rapport à ce qui se passe.
Alors, justement, jamais, c'est vrai que quand on parle alors du détournement, de la corruption, ce sont des choses quand même qui existent aussi en matière alors de dette publique, c'est-à-dire cette dette publique, ce que cette dette publique devrait servir à faire finalement, on ne le voit pas parce que il y a certains qui sont là et qui sont mal intentionnés et rapidement détournent l'argent.
Oui, mais moi j'écoute ça souvent dans la bouche des hommes politiques. De quelques faux économistes, hein, excusez-moi le terme. Moi, je prends la chose terre à terre. Hein. Vous voulez acheter une voiture aujourd'hui? C'est en Afrique qu'on voit les gens acheter des voitures et payer cash. Mais en Occident, ça n'existe pas. Tout le monde achète une voiture perçue 4 ans, 6 ans et plus. Mais c'est en Afrique que tu vois quelqu'un faire un prêt. Sur 3 ans, il achète un terrain. Il fait prêt sur 3 ans, il construit. Et en 6 ans, il ne mange rien, il galère, il est nerveux, il fatigue sa famille. En Occident, tu fais un prêt, tu as 18, 20 ans pour payer ta maison. Quoi. C'est comme si tu payes le loyer. C'est de ça que Phil me parle. Quand nous, on s'endette, d'abord le taux est élevé, et on nous oblige à rembourser dans un délai court. Et les autres, ils prennent beaucoup, et puis, ben, ils ont le temps de rembourser. Alors, quand vous allez sur Internet, vous cherchez les pays les plus endettés. On vous parlera du Japon, on vous parlera de l'Irlande, de l'Italie, de l'Espagne, tout ça, les États-Unis, la France. Le pays le moins endetté, on vous parlera d'un pays comme le Koweït, qui est très riche, mais qui est quand même endetté, comme Macao, qui est un peu à côté de la Chine et tout ça. Et donc, tout ça, tout le monde s'endette. On ne peut pas vivre sans s'endetter. C'est pour ça que les Africains souffrent, parce qu'ils n'aiment pas s'endetter. Vous allez voir quelqu'un, lui dit, va prendre un prêt, il dit, non, je ne veux pas. Il veut qu'on lui donne, ou bien qu'on l'aide, ou il veut se débrouiller. Et il va tourner en rond. Vous prenez les petites femmes aujourd'hui qui arrivent à monter leur business. Mais elles sont affiliées à des microfinances et tout ça. Elles prennent des petits sous. On n'a pas l'impression de savoir que c'est des personnes très intelligentes qui sont là. Nous, les intellectuels, regardent ces femmes, on ne sait pas comment elles se débrouillent. Mais c'est des gestionnaires extraordinaires. Tu les vois, elles ne sont pas allées à l'école. Mais celles qui savent prendre 500 000, faire les tontines, des trucs, payer, rembourser, agrandir le business, c'est un peu cela. Donc on ne peut pas se développer sans s'endetter. Et les pays les plus développés sont les plus endettés en réalité. Il faut qu'on permette à l'Afrique de s'endetter beaucoup. Ici, les politiciens vous disent, mais vous vous endettez, c'est nos enfants qui vont payer. Mais quand les Blancs s'endettent, et ils réfléchissent comme ça que c'est leurs enfants qui vont payer. Non. Il y a même dans l'Occident, aux États-Unis, c'est un pays, même on te pousse à t'endetter à chaque carrefour, en fait. Tout est à crédit.
Même les études.
Tu veux un téléphone, prends-le. Tu veux une voiture, une chemise, tu veux même manger à crédit, prends-le. Tu vois un peu. Mais ici, quand tu dis, c'est des hommes d'affaires ici qui prennent des dettes. Les autres, quand tu vois quelqu'un prendre une dette, c'est pour aller acheter un terrain.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi culturel?
Donc maintenant qu'on dise que les États prennent des dettes, et non, je crois que ça c'est un langage de politicien. J'étais même surpris, j'ai écouté sur RFI un politicien togolais qui dit qu'il n'y a pas, on prend des dettes au Togo, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Bon, lui, il voit rien, en fait. Et que, bon, c'est comme on prend les dettes et les dettes vont dans les poches de certaines personnes. Non, non. Je crois qu'il faut être sérieux. Ici, on nous oblige à utiliser les impôts pour financer nos projets. Vous allez voir que des structures comme l'OTR mobilisent presque plus de 70% de notre budget. Ça veut dire que c'est en interne qu'on finance notre développement.
Ça ne peut pas marcher.
Mais eux, ils ne le font pas comme ça. Ils ne se mettent pas la pression comme ils nous mettent la pression. Ça, c'est un peu terre à terre pour expliquer. Maintenant, après, il faut comprendre que c'est comme un homme. Chacun doit s'endetter. Nous, on a peur de s'endetter. C'est une erreur. C'est que soit tu ne veux pas payer, tu ne veux pas t'endetter. Mais en réalité, tu ne peux rien faire sans t'endetter. C'est vrai. C'est pour ça que les banques existent. Maintenant, en Afrique, c'est qu'il faut revoir le taux. En Europe, vous allez voir des taux très bas, autour de 2%. Et tout ça, ici, les gens vont jusqu'à 16%, 10% et plus. Donc, c'est ça aussi qui tue. Vous payez à la banque après, mais vous êtes fatigué. Et donc, il faut... Et je crois que c'est ça qui a poussé les pays africains à se réunir. On a un président qui a fait expressément le déplacement, c'est le président du Ghana, qui est un pays très fatigué par la dette. Le Ghana est épuisé par la dette. Et même à la suite de l'OMI, on a quand même demandé à ce qu'on remette certaines dettes à certains pays. Il faut qu'on annule certaines dettes, parce que quand vous voyez les intérêts et tout ça, et Firmin aussi disait quelque chose d'assez important, les gens vont perdre de l'argent et toute la dépense et qui vont fournir le matériel et tout ça. C'est les experts qui viennent et vont dire, mais vous voulez financer votre radio, d'accord. Ça ne vaut pas 5 millions, mais les micros, vous les achetez en France. La clim, vous l'achetez en France. L'ordinateur. Finalement, vous voyez un peu dans quoi on est. Donc, il faut peut-être que les Africains aussi se réveillent. Voilà pourquoi une initiative comme les BRICS aujourd'hui, ça marche, parce que le FMI et la Banque mondiale, les pays africains ne sont pas totalement privilégiés dans ce système-là. Et beaucoup de pays frappent aujourd'hui à la porte des BRICS, parce que les BRICS sont quand même une banque aussi qui essaie d'aider les pays, de financer certains projets. Et ça pourrait arranger. Donc, mais après, quand on écoute, on dit, bon, on s'endette, nos enfants vont souffrir pour payer. On s'endette, non. Ça, c'est ce qui... n'ont rien compris. Vous allez voir tous les hommes d'affaires, on les voit dans les grosses voitures, dans les grands immeubles, si on vous montre la taille de leur dette, vous allez fuir. Mais ils ne prennent la dette, c'est un outil de travail, en fait. C'est un outil de travail.
Et un outil de développement aussi ?
Si on l'utilise bien, ça.
D'accord, si on l'utilise bien. On va quitter le sujet, on s'intéresse à un autre sujet. C'est le journal du Togo qui nous donne bien sûr ce sujet. Le journal parle de la formation du gouvernement et le journal écrit « Formation du gouvernement ». En attendant la reconduction des faucons, la construction du pays atteint le Togo meurt. C'est ce que le journal écrit bien sûr. Et c'est vrai que après la désignation du président du conseil et aussi l'élection du président de la République, et c'était le samedi 3 mai dernier. Ce qui va suivre maintenant, c'est la formation justement alors du gouvernement. Samir, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça tarde là?
Moi, peut-être que je voudrais vous poser une autre question. Est-ce qu'en l'état actuel, lorsque vous avez un problème, est-ce qu'il n'y a pas de répondant dans le domaine dans lequel vous avez le problème?
Mais puisque l'ancien gouvernement est...
Non, je réponds au titre qui a été, formulé. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous avez un problème dans un secteur donné, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'administration, dans le domaine de l'agriculture, est-ce qu'il n'y a pas un répondant?
Parce que les affaires courantes sont là.
Est-ce qu'il n'y a pas un répondant, Pascal? Il y a toujours quelqu'un qui est à ce département-là, qui gère donc les affaires liées donc à ces domaines de compétences véritablement. Je pense qu'au-delà, il n'y a pas une disposition réglementaire et même législative qui fixe le délai dans lequel un gouvernement doit être mis en place. Il n'y en a pas. C'est une pratique d'État. On peut nommer le gouvernement après 2 jours, on peut nommer le gouvernement même le même jour. Vous avez vu au Sénégal, après la prestation de serment, le président du Maïfaya a nommé le premier ministre en même temps.
Mais non, au Gabon, tout récemment.
Et donc, c'est une question de pratique. cela n'enlève en rien en la crédibilité de l'action gouvernementale. J'ai énormément entendu beaucoup de choses. Les gens racontent des énormités, à la limite des faussetés, parce que ça ne se fonde sur aucun dispositif législatif ou réglementaire. Il n'y a pas de justification. Les gens vont dans tous les sens possibles. En fait, l'idée, c'est qu'on puisse avoir un gouvernement, parce que tout le monde attend. C'est ça, au fait, l'enjeu majeur. Qui seront les premiers ministres, les tout premiers ministres, donc, du premier gouvernement de la 5e République? C'est une question de curiosité. Et en même temps, c'est pour que les gens puissent se rendre compte, en fait, est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui vont faire leur entrée dans le gouvernement, ou bien ce sont les mêmes personnes qu'on va retrouver? Parce qu'en fait, ceux qui sont nommés dans le gouvernement n'ont aucun mandat électif. Ce sont des fonctions de nomination. Ça dit que si demain je suis président de la République ou président du Conseil, ou je suis peut-être président de la République dans un autre pays, puisque j'ai un certain nombre de relations avec toi, Pascal, que je te connais depuis un bon moment, je sais bien de quoi tu es capable dans ton domaine, je peux décider de te nommer à un poste donné. C'est un poste politique. C'est pas une question de technocrate. C'est pas une question de... Non, c'est pour ça un ministre est entouré des spécialistes, des intellectuels, des conseillers qui puissent lui faire des propositions en termes de réponses à apporter à certaines préoccupations des populations. Donc je pense qu'il faut dépassionner le débat. Il ne faut pas faire croire aux populations comme si être ministre, il faut avoir fait un bac plus 8. Il faut aller à la Banque mondiale. Non, même quelqu'un qui est au village en tant qu'instituteur, s'il a un ancrage politique, s'il a des relations efficaces avec celui qui a le mandat électif, il peut être nommé ministre. Nous avons vu des gens qui n'étaient pratiquement rien, qui ont quitté du bas de l'échelle et qui sont devenus des grandes personnalités dans ce pays. Donc, je pense que le vrai souci ou la vraie question fondamentale, ce que le souhait, et ça reste un souhait, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir un gouvernement qui puisse matérialiser ce basculement institutionnel, donc de la 4e République à la 5e République. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un président du Conseil qui est chef du gouvernement. Donc, c'est lui qui nomme les ministres. Donc, il faudrait qu'il y ait une équipe gouvernementale et que l'exécutif puisse prendre corps véritablement et qu'on puisse voir les vertus, les bienfaits qui ont été présentés de ce régime parlementaire, les améliorations qui vont être apportées, parce que les gens ont présenté le régime parlementaire comme un régime de stabilité politique, et qu'on puisse véritablement s'adonner aux préoccupations des populations dans le domaine de la santé, d'accord, de l'éducation et dans le domaine social.
Merci Samir. Oui, Fermin, allez, aujourd'hui, c'est quand des gens s'inquiètent de ce que le gouvernement TAD a sorti, c'est parce que ailleurs, on a vu quand même la célérité par laquelle le gouvernement a été rapidement communiqué, parce que je le dis par rapport au Gabon. Au Gabon, après même la prestation du général Oligui, automatiquement, ça a été mis en place, le gouvernement. Alors finalement, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Mais non, moi je ne dirais pas qu'est-ce qui se passe. Notre souhait le plus absolu est que le gouvernement togolais, le nouveau gouvernement du régime parlementaire, que nous puissions l'avoir d'ici peu. Mais vous savez, je vous lis l'article, c'est qu'en cas de la constitution de la 5e République, on dit le président du Conseil, après délibération du Conseil des ministres, peut engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme. Qu'est-ce que je veux essayer de dire? Il y a deux choses fondamentales ici. Il y a tout d'abord la formation du gouvernement. Et il y a aussi la présentation du gouvernement ou du programme du gouvernement devant les députés de l'Assemblée nationale. Ce qu'on appelle la déclaration de politique générale. Vous savez, Faure Gnassingbé, il a été pendant 20 ans président de la République. Il est venu dans une situation un peu difficile et il a fait ce qu'il a pu. Et aujourd'hui, il est président du Conseil. Vous croyez que toutes les critiques que les gens lui adressent, vous croyez qu'il n'écoute pas? Donc, il va beaucoup réfléchir avant de nommer des ministres, parce qu'en réalité, aujourd'hui, Faure Gnassingbé n'a plus droit à l'erreur. Les Togolais ne vont pas lui pardonner cela. Mais Faure Gnassingbé n'a plus droit à l'erreur. Il a vanté le régime parlementaire. Faure Gnassingbé a dit que c'est le régime parlementaire. Oui, j'ai fait pendant 20 ans l'expérience du régime semi-présidentiel. Mais le faux régime parlementaire. Alors, avec ce régime parlementaire, j'ai foi que les choses vont aller de mieux en mieux. Alors, pour conduire cette politique, il faut une nouvelle équipe. Il faut une équipe rayonnante. Il faut une équipe capable de l'aider à mener à bien sa politique. Non, il va pas du jour à prendre en deux minutes ou en deux jours former un gouvernement, aller prendre n'importe quoi. Il faut qu'il réfléchisse. Parce que vous imaginez, c'est une question aussi.
Mais après tout, la transition a duré un an. Hein?
Oui, la transition avec tout ce que nous avons connu. Il y avait la transition, mais il y avait aussi le pays qui évoluait. Il y avait la continuité de l'État. C'est deux choses fondamentales. Et pendant ça, je peux dire qu'il cherchait des ministres. Vous imaginez, avec ce gouvernement, ils seront régulièrement interpellés à l'Assemblée nationale. Alors, qui pour pouvoir répondre? Il faut des ministres beaucoup plus efficaces. Des ministres, on vient de faire un truc, un sommet sur la dette. Il faut laisser la besoin d'argent. Des ministres capables de lui dire, monsieur le président, voilà le chemin par lequel il faut passer pour avoir de l'argent. C'est ce que ta loi fait ça, vous imaginez? Robert Dani, dont on parle souvent là, c'est quelqu'un qui sait chercher de l'argent à l'international. Le Bénin n'a pas assez de ressources que nous. Mais on n'a plus des gens efficaces. Il faut laisser maintenant de réfléchir. Il faut se dire, il nous faut une équipe beaucoup plus dynamique, d'accord, capable de m'aider dans ma vision en ce qui concerne le régime parlementaire.
D'accord, merci. Ouais, Gerbin, quelques mots pour vous. Quels doivent être les défis, surtout à l'heure du prochain gouvernement?
Oui, c'est ça. Je m'en parlais un peu. Ça va être le tout premier gouvernement sous le tout premier régime parlementaire, hein, véritablement vécu par le Togo, même si dans les années 58, on nous dit qu'il y a eu un début de régime parlementaire, même si pendant la transition, on a vu un premier ministre qui avait aussi l'essentiel des pouvoirs dans ses mains. Mais ça reste une première véritable occasion donc de vivre le régime parlementaire, et il faut mettre en place une équipe gouvernementale capable de répondre aux attentes. Vous savez que ce gouvernement va être très dépendant du Parlement, et comme ça se fait dans les régimes parlementaires, ce gouvernement doit rendre énormément compte aussi, parce que il s'agit d'un gouvernement qui peut être renversé à tout moment. Hein, et donc, même si le président du Conseil a la majorité, et donc, il faut aussi que ce gouvernement soit capable de faire les choses autrement. Je ne dis pas d'inventer totalement comment on fait la politique, mais il faut que les citoyens sentent qu'il y a un nouveau régime. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui travaillent un peu plus différemment, même si le soleil se lève toujours à l'est. Que ces membres du gouvernement là travaillent un peu plus différemment, et je pense peut-être que c'est pour cela que ça prend un peu le temps, mais les Togolais sont impatients de voir les nouveaux visages qui vont incarner ce tout premier gouvernement qui sera présidé par le président du Conseil. Et on espère aussi qu'au niveau de la presse on aura beaucoup de matière, parce que on espère que le gouvernement va beaucoup rendre compte. On espère que l'Assemblée nationale aussi va prendre réellement en compte les préoccupations des populations et interpeller régulièrement. Là, on parlait de l'électricité. Je crois qu'il y avait une conférence de presse qui devrait s'organiser hier, qui finalement n'a pas pu s'organiser. Mais je pense que dans un régime parlementaire, il faut que les députés interpellent le gouvernement, pour qu'ils viennent expliquer assez clairement ce qui se passe, pourquoi. Est-ce que l'électricité est un peu plus chère? Quelles sont les perspectives? À quoi on peut s'attendre de mieux et tout ça? Donc, je crois que ça devrait commencer au Parlement, mais il faut quand même une équipe qui soit capable, pas comme les ministres qu'on avait avant, dont pour certains c'est assez difficile
de les voir devant les députés. Merci beaucoup Germain, merci cher confrère. On va en arrêter là pour ce qui concerne le débat et donner la parole à nos auditeurs. C'est le principe de l'émission, vous le savez très bien. Nous allons leur donner la parole sur le 90 86 35 35 91 36 315, également sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse, et maintenant nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 315. Notre premier auditeur est en ligne. Allô?
Oui, bonjour grand frère Pascal. Bonjour les auditeurs et les invités.
Bonjour, c'est Benoît.
Oui.
Benoît Dagoué.
Oui.
Allez-y.
Moi, je voulais vous dire, il faut inviter les gens du NIR de venir nous dire pourquoi jusqu'à présent on n'a pas encore un gouvernement. pourquoi au moment où de nommer le président du conseil là, et le conseil des ministres, pourquoi le président, pourquoi on n'a pas nommé premièrement le président de la République? On n'a pas encore, on n'a pas élu premièrement le président de la République avant d'aller élire élire le président du conseil. Soyons réalistes. Le travail, quand on dit qu'un pays là, c'est la rapidité. Faut pas, en ce qui concerne les dettes, nous ne comparons pas les choses comme ça. Vous pouvez comparer un pays qui a un satellite en l'air, qui électrifie les eaux, qui a des caméras un peu partout, sa dette avec la dette, vous n'avez même pas un vrai train, un chemin de fer, des échangeurs. Vous savez, en Afrique du Sud, le parlement est différent. Pourquoi le président du conseil aura le pouvoir de dissoudre l'Assemblée? Si ce n'est pas pour que le président du conseil a peur
Merci Benoît pour votre intervention. Bonjour Canal FM. Avec la 5e République, tout ce que nous voulons, c'est de trouver du travail à faire, subvenir aux besoins de nos familles, manger 3 fois par jour. Si toutes ces conditions sont réunies, pourquoi ne pas clamer haut et fort? Merci. C'est André qui nous écoute depuis Dakar. 90 86 35 35. Allô.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Mahouto, comment vous allez?
Ok. Ça va.
D'accord, allez-y. Vous avez l'invité.
Au premier, au commencement, monsieur Tani comparait la situation économique, la situation électrique, quoi, du Togo par rapport à celle du Ghana. Moi, je ne comprends pas. Je vais lui poser la question. Est-ce que les hommes, les hauts cadres du Ghana, ils ont contacté la dette envers leur compagnie électrique du Ghana? Au Togo, c'est ça qui se passe ici. On a dit que les gens ont collé la dette envers la CET. Ils ont refusé de payer. Maintenant, on me compare ça, la même chose avec le Ghana. Moi, je ne comprends pas. Même en termes de popularité, est-ce que le Ghana et le Togo, on peut comparer le Ghana et le Togo? C'est ça qu'il faut comparer, quoi. Par rapport au détournement que M. Pouli disait que lui, il attend cela dans la bouche des hommes politiques. Je vais lui poser la question. Sur la route Vaughan, est-ce qu'il y a un détournement ou pas? Merci, bonne émission.
Merci à vous aussi pour votre contribution, Monsieur Mahouto, 90 86 35 35 91 36 33 115. Allô.
Allô.
Bonjour Madame ici.
Bonjour. Vous allez bien, vous allez tous bien là-bas.
Ça va, on dit
vous
merci à Dieu.
Mes frères.
Oui, ça
et
va.
Et puis toi, mes condoléances.
Merci.
Tu as rejoint notre association des orphelins. Voilà. Et puis Babari. Vous avez discuté de tout, il y a mon frère Firmin là-bas, tout le monde. Mais bon, qu'est-ce que vous proposez là? Est-ce que ce qui se passe au Togo là, depuis l'année de temps, est-ce que c'est normal? C'est normal qu'on doit braquer la République, on en joue, et puis on opprime, on torture la masse, on les a esclavagisés, on en fait ce qu'on veut, parce que à me connaître faire de nous. Est-ce que c'est bon, c'est normal? Pourquoi on vient défendre ça? Hein? Est-ce que c'est bon? On les a esclavagisés. Pourquoi ils vont le faire? Pourquoi le gouvernement va le faire ça même? Ils n'ont pas le droit de nous esclavagiser, de nous piétiner, nous humilier toute la vie. Regardez l'histoire du président du conseil tout ça là. Est-ce que ça sort bien chez le président? Le président, notre président de 20 ans, est-ce que ça lui fait, est-ce que c'est bon ce qu'il est en train de faire? Ça, c'est comme ça, là. Un pays est tombé, un ruiné. C'est pas bon pour l'histoire. C'est ce que je veux dire. Je vais demander ma question, mon éternel affirmé. Combien d'enfants possèdent ou souhaitent? Et combien font de la politique pour pas qu'ils fatiguent dans la Côte d'Ivoire? Tu veux le savoir?
D'accord, merci madame ici pour votre intervention, puisqu'il y a beaucoup de personnes nées en ligne. 90 86 35 35 91 36 33 115. Allô. Oui, bonjour.
Oui, bonjour chef.
Votre nom, c'est Sylvain.
C'est Sylvain.
D'accord, allez-y.
Je salue tous les confrères qui sont au studio avec vous.
D'accord, il vous salue aussi.
Franchement, si on fait une comparaison entre le Togo, le Nigeria, la France, même les gens vont jusqu'à la France. Ici, on parle de 56 600 km². Après plus de 60 ans de dépendance, nous ne sommes pas indépendants énergiquement. Il y a un problème, monsieur, il y a toujours un problème au Togo ici. Et on ne peut pas faire cette comparaison. Nous parlons du Togo, 56 600 km². On va attendre que le Nigeria ou le Ghana nous vendent leur énergie, ce n'est pas possible. Nous avons des ressources. Il faut les exploiter pour qu'on soit indépendant énergiquement. Après, bah, il n'y a pas une solution à chercher ailleurs. Et pour ce qui s'est passé à Lomé, avec Mahama et M. Faure, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont décider les deux là, à la place de plus de 50 personnes, chefs d'État. Je ne sais pas pourquoi les gens ont brillé par leur absence. Il faut nous expliquer ça, pardon.
D'accord, merci. Oui, merci Sylvain pour votre intervention. 90-86-37-35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Allô?
C'est M. Nyamavo.
Oui, allô?
Oui, c'est M.
Nyamavo.
Ah, M. Nyamavo.
Oui.
D'accord, allez-y.
Je vous salue.
Oui, nous vous saluons aussi.
Germain disait que le Ghana est fatigué par la dette. Est-ce à dire que le Togo est fatigué par la dette? C'est pourquoi les deux pays se retrouvent à M. Germain. Et à son confrère, je le prends au mot. La dernière fois, il avait traité les autres provinces qui vont à l'Union, qui sont des ministres chrétiens. Voilà comment. On dit qu'il parle trop pêche, hein. Hein, ceux qui vont pour travailler, sauver une partie du Togo, parce que c'est un brigadé. On le traite de ministres chrétiens. Aujourd'hui, il dit que ceux qui volent, sont minimes. Pas de vous connaître un voleur. Et c'est minime, ce qu'ils prennent, c'est minime par rapport à la dette finie. Vous voyez? Entre temps, je vous donne un exemple. Je dis, prenons l'exemple que nous sommes sur une île. Il n'y a pas d'argent. On fait un prêt 10 000. On doit intérêt 1 000 francs. Ça passe, l'année passe, 1 000 francs, il va rester 9 000. L'autre, ça passe, il va rester. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour payer ça? Finalement, le capital va finir. Quand ça va finir, on va encore faire prêt encore. Mais si on fait ça, d'autres mettent ça dans leur poche. On n'engrange pas ce qui fait pour l'économie. Comment pensez-vous qu'on ne va pas rentrer dans les dettes? Non, c'est comme ça. Là, en Europe, vous citez, les gens sont ce qu'on a conscience qu'ils peuvent payer le jour au lendemain. Mais vous, ça ne fait pas pression. Vous connaissez, vous les Africains, c'est pourquoi vous faites pression. Vous voyez, c'est bien. Donc, j'essaie d'abord de traiter ceux qui sont. D'abord, aujourd'hui, vous avez traité l'opposition de ministre-président. Aujourd'hui, on dit que le président de la République est un opposant. Il est ministre-président. Et par rapport au président au PC.
Oui, monsieur Nyamavo.
Oui.
Oui, merci beaucoup parce que il y a encore d'autres qui sont en ligne. Nous allons leur permettre de rentrer, bien sûr, en ligne. Allô?
Allô,
bonjour.
Bonjour, monsieur Zaf.
Oui, votre radio à côté de vous fait un peu de bruit, s'il vous plaît.
Excusez-moi.
Décidément, nous allons. Allô?
Oui.
Oui, c'est monsieur?
Ah, monsieur, bonjour.
Oui, bonjour.
Monsieur Bessin.
C'est monsieur?
Monsieur Bessin.
Monsieur Bessin.
Oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
De Badago.
De Badago, allez-y.
Bon, je veux parler de la dette publique.
Oui, allez-y.
Tous les pays du monde sont endettés. Mais ce qui moi m'importe ici, c'est la gestion. Notre Togo était appelé colonie modèle, basta colonie, pendant l'époque allemande. Parce que les Allemands géraient bien. Ils sont arrivés à épuiser le budget. Les taxes et les impôts qu'ils prenaient, ils ne dilapidaient pas ça. On confie la gestion du groupe à quelqu'un, il détourne les 6 milliards. Est-ce que c'est bien ça? Ce n'est pas bien. La dette, quand vous endettez, il faut gérer ça utilement pour profiter le pays. On ne s'endette pas pour ses besoins personnels. C'est ça que je déplore. si on, les pays les plus puissants, les États-Unis, sont les plus endettés du monde. Mais l'argent sert au peuple, l'argent sert à la population, ça ne sert pas une minorité dont le chef de l'État avait parlé.
D'accord.
C'est pas bien.
D'accord, merci.
On se réveille à nous pour augmenter le prix de l'électricité.
Ok, merci, monsieur Bessin, pour votre intervention. Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce vendredi. Allô?
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 Allô? Allô? Décidément, il n'a pas le retour. Hein. 90-86-35-35. Allô? Il est parti, 90-86-37-35. Nous recevons maintenant le dernier auditeur. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
C'est Komi, depuis la santé, ça ne va pas.
Ah, Komi.
Ça ne va pas.
Oui, allez-y.
Apprenons à dire la vérité, ça ne va pas.
D'accord, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas?
Il y a de cela quelques années, on nous a fait le sommet sur l'économie maritime. À ce jour, quelles sont les retombées de ces réunions-là? La dernière-là, qui s'est fait sur les dettes publiques, qui paie la facture? Qui va payer les factures de ce sommet-là? Et les recommandations de l'ONU par rapport au sommet maritime, quels sont ces pays qui ont appliqué ces recommandations? Par où en est-on? Donc, on se permet, parce que on a changé de régime, on veut voir des gens s'intéresser à nous. C'est comme ça, moi, je comprends la chose. Donc, on organise quelque chose qui dit qu'on est utile. Sinon, c'est du gaspillage chez moi, à comparer à ce qui a été fait dans un passé récent. Sinon, on est sérieux. Depuis quand ceux qui ont des enfants et ont des projets sérieux laisse de côté le projet que vous venez se rassembler dans une salle. Qui vous fait réellement l'emprunt. Vous n'avez même pas le temps. Que vous voulez même augmenter prochainement les sommes que vous avez pu engager. C'est de ça qu'il s'agit. Que des journalistes veulent aussi nous bléhir, ça fait leur boulot. Hein. Parce que à notre niveau,
oui,
comprenons les choses.
Oui, d'accord. Komi, merci pour votre intervention. Je pense que Komi, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce vendredi. Mais il y a des réactions, bien sûr. Vous étiez nombreux également à réagir sur notre plateforme WhatsApp. Il y a, par exemple, Léonce qui nous écrit bonjour. Canal FM, si le contribuable togolais constitue le budget de l'État, pourquoi les dettes, la privatisation des biens des biens de l'État alors qu'on ne voit rien si ce n'est pas pour parler de Dr Lafia, pas d'eau potable, pas d'électricité, mais le prix augmente pour le pays peuple alors que les riches même n'en payent rien. C'est une réaction de Léonce depuis de Lyon. Autre personne bien sûr qui réagit, c'est Ibrahim qui dit bonjour Canal FM. Quand on nous cite certains pays endettés comme le Togo, il faut comprendre qu'ils s'endettent pour des raisons qui font qu'aujourd'hui ils sont développés. Nous en Afrique, plus particulièrement le Togo, s'endette pour quelles raisons? C'est la question que le journaliste Pouli doit se poser. Les détournements, surfacturation, corruption, voilà ce que c'est les dettes dans mon pays. C'est Ibrahim qui nous écrit, bien sûr. Chers confrères, nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table avant de clôturer ou de mettre fin à l'émission de ce jour. Germain, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur l'actualité telle que nous l'avons débattue ici au Club de la Presse. Votre réaction?
Ma réaction, déjà, c'est l'ancien président du Ghana, Nanado Akufo, qui avait décidé de ne pas lui s'endetter. Il estimait que le Ghana était capable de se financer un peu comme le disent les opposants dans les pays. Et on sait la situation dans laquelle il s'est retrouvé, dans quel pétrin il a mis le pays. Donc, cette question de dette, c'est tous les pays sont endettés. J'ai cité même des pays comme le Koweït ici, le Bahreïn ici, qui ont même des dettes qui vont dans les 3-4%. Alors que c'est des pays très riches qui peuvent dire qu'ils n'ont pas besoin. Même le plus riche d'Afrique, Dangote, il s'est endetté pour mettre en place sa raffinerie au Nigeria. Il a l'argent, mais il s'est endetté. En fait, c'est un outil de travail, comme on dit. C'est embêtant quand on le dit, on dit non, c'est pas, non, c'est ça la réalité. Maintenant qu'on dise que maintenant c'est l'utilisation qui est facile, les gens sont convaincus que toutes les dettes sont finalement, les gens se mettent ça dans leur poche, mais qu'ils dénoncent cela. Qu'ils dénoncent cela, on dit, mais le Togo a fait tel prêt, tel DG ou tel ministre a mis ça dans sa poche, là on va en parler.
D'accord.
Mais après, quand on dit de ne pas s'endetter, que nos enfants vont payer, de tout ça, on a expliqué un peu pour dire que c'est tout le monde qui s'endette pratiquement, et même les riches s'endettent beaucoup plus que les pauvres, alors que ça devait être le contraire.
D'accord.
C'est ceux qui n'ont pas d'argent qui devaient aller chercher de l'argent.
Merci, Jamin Pouli. Oui, Samir?
Mais moi, je voudrais juste dire qu'en fait, au cours de ces dernières années, nous avons fait des avancées notables. Nous sommes en fin 2024 à 70% en termes de taux de couverture en énergie électrique au Togo. Ce n'est pas encore ce que nous voulons, mais ce n'est pas non plus rien. C'est quelque chose de significatif. Et ensuite, l'État a énormément multiplié des projets de réforme et d'investissement dans le domaine de l'énergie électrique avec des projets avec la BOAD, avec la Banque mondiale, avec la BAD. Donc on sent une certaine conscience des gouvernants en termes d'amélioration donc de production donc de l'énergie électrique, mais également de l'amélioration du réseau électrique. Parce que qui parle de l'énergie électrique parle de la production, parle des infrastructures pour pouvoir transporter le courant et parle ensuite de la distribution. Ensuite, sur la question de la dette en soi n'est pas une mauvaise chose. La dette, c'est un outil de développement. Pour les grandes infrastructures de développement, vous ne pouvez pas faire autre chose que de vous endetter. C'est un fait dans n'importe quel pays. C'est comme ça que cela se fait. C'est-à-dire que la dette, c'est un outil qui vous permet d'améliorer votre cadre de vie. Qui parle de cadre de vie, parle des infrastructures routières. Contrairement à ce que Firmé disait, en fait, les pays africains ont une certaine responsabilité. On peut s'endetter pour mettre l'argent dans la construction des routes. Les routes, c'est un facteur de développement. Ça permet le transport des marchandises, en fait. Et ensuite, c'est la manière de gérer la dette. Votre capacité à gérer la dette, à la rembourser, qui fait que votre dette sera efficace ou non.
Tout à fait, d'accord. Oui, Firmin.
Oui, c'est pour répondre à celui-là qui disait pourquoi on n'a pas élu le président de la République avant le président du Conseil. L'auditeur qui posait cette question, moi je voulais lire l'article 97 de la Constitution de la 5e République qui dit « Les pouvoirs du président de la République en fonction au moment de la promulgation de la présente Constitution ne viendront à expiration qu'après l'entrée en fonction du président du Conseil et l'élection du président de la République. » Voilà, juste dire en deux mots. Vous savez, si par exemple on avait élu le président de la République sous la 5e République avant le président du Conseil, le Togo aurait eu deux présidents en même temps. Ce serait un désordre institutionnel. Alors que si par exemple on a choisi gérer le cas du président du Conseil, en ce moment il est président du Conseil, mais il était en même temps le président de la République. Donc il était président du Conseil, mais en même temps président de la République. Donc ces pouvoirs de président de la République se sont éteints lorsqu'on a eu à avoir le président de la République qui a eu à prêter serment. Donc il fallait, et c'était constitué, il fallait avoir le président du Conseil avant le président de la République sous la 5e République.
D'accord, merci cher confrère Firmin Teko Agbo, merci à toi, merci. Journaliste et chroniqueur politique, merci d'être passé dans cette émission.
Merci Pascal, beaucoup de courage.
Merci Germain Pouli, merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci d'être là et merci d'avoir contribué à ce débat avec vos réflexions, vos diverses réflexions. Merci à Samy Orosamor d'être passé bien sûr dans cette émission.
Merci.
Vous êtes défenseur des droits humains et aussi vous êtes analyste politique, bien sûr. Merci à vous tous et qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à Michel Coco Vito Betomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakoutsa a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lussou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et vous passez un bon week-end.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. distribué au Togo par la SNB. Vachteiner, la vie dorée.